France Inter. Le 18-20, Fabienne Saintès.
Où en sommes-nous? Au moment où on se parle, le virus court. Voici les chiffres. 127 morts, 4523 cas confirmés, ce qui veut dire 36 morts et 900 cas supplémentaires en 24 heures. Il y a 400 personnes hospitalisées dans un état grave. C'est parce que ces chiffres commencent à donner le tournis que le gouvernement a donc annoncé des mesures jeudi, puis samedi et ce soir encore à 20h. Et vous qui nous écoutez, vous vivez, vous avez vécu votre première journée particulière, première journée sans école pour les enfants, première journée de télétravail pour certains mais pas pour d'autres, à situation inédite, organisation inédite, et pour certains d'entre vous, on le comprend, rien n'est simple. Racontez-nous ce qui vous a posé problème aujourd'hui, racontez-nous ce que vous ne comprenez pas, ce qui coince dans votre entreprise, ce qui est interdit de voir à long terme, ce que vous saurez améliorer, ce qui vous semble insurmontable. Parlons enseignement ensemble, parlons entreprise, parlons bien sûr médecine, parce que sur ce plan, évidemment, vos très très nombreuses questions disent bien que vous avez besoin d'informations. Nous sommes là pour ça. Soyez les bienvenus sur France Inter et bienvenue aussi à nos amis de France Culture qui sont là pendant toute cette première heure.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marc, c'est vous le premier. Je vous souhaite le bonsoir. Bienvenue sur France Inter et France Culture.
Oui.
Allez-y.
Voilà, dans l'édition du Monde de ce soir, on dit qu'il y a 400 personnes hospitalisées dans un état grave en France. Or, quand on écoute les responsables hospitaliers, on nous dit que simplement à la PHP, il y a 5000 lits de réanimation, et si on les étend aux lits de soins intensifs, on pourrait atteindre 10 000. Alors, je ne comprends pas qu'on puisse parler de tension ou de saturation. Voilà, où est l'erreur?
Eh ben, on va essayer de répondre à vos questions sur ces chiffres et voir ça ensemble jusqu'à 19h. Et puis au-delà, je vous présenterai nos invités au fur et à mesure, qui, vous le savez, puisque nous sommes dans des conditions particulières, ne sont pas avec nous en studio, mais sont au téléphone. Je vais commencer avec vous. Bonsoir Aurélien Rousseau.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Alors, vous, votre périmètre, c'est l'Île-de-France, hein, on l'a bien compris, mais est-ce que vous pouvez éclairer notre ami Marc sur ce qu'il semble, selon lui, être des dysfonctionnements, on va dire, dans les chiffres, ou peut-être un manque de compréhension dans les chiffres qui sont donnés?
Écoutez, les agences régionales de santé, aujourd'hui, elles ont, pendant toute la première période, essayé de limiter la propagation du virus. Maintenant, elles assurent cette course contre la montre pour la montée en puissance du système de santé. Et en effet, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Je peux donner quelques éléments à notre auditeur. 400 personnes aujourd'hui en France sont dans un état grave. Elles sont dans des services de réanimation. En Île-de-France, c'est 200 personnes. Mais on a tendance parfois à confondre les lits de réanimation, stricto sensu, avec les lits de soins critiques, c'est-à-dire notamment, vous voyez, les salles de réveil ou des lits dans lesquels on est un peu moins intensément dans une situation sanitaire préoccupante. En Île-de-France, il y a 1200 lits de réanimation. Aujourd'hui, il y a 200 malades Covid, mais ces 1200 lits de réanimation, ils ne sont pas vides. Il y a des malades qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que jeudi, j'ai décidé en Île-de-France, et le ministre l'a confirmé ensuite, de déprogrammer tous les actes non indispensables, non urgents pour libérer ces lits. Donc oui, il y a une vraie tension. On n'est pas à saturation à l'heure où on se parle. Je parle notamment en Île-de-France. Et puis dernier point, la situation elle est très différente d'une région à l'autre. Mmh. En Grand Est, avec une très forte épidémie, en Île-de-France où toute la région est en situation épidémique. Et puis il y a des régions où il y a beaucoup moins de personnes malades. Mais la tension elle est là et il ne faut pas relativiser. On voit ce qui s'est passé dans les autres pays. On est éclairé par ce qui s'est passé. On va vers une situation dans laquelle on a des vagues qui arrivent très brutalement. On a constaté très brutalement, mercredi dernier, une augmentation de la sollicitation en réanimation. Et c'est pour ça qu'on sonne cette mobilisation générale. Ça n'est pas pour se faire peur, c'est pour être prêt le moment venu quand la tension sera la plus forte.
En l'état, je vous entends, Aurélien Rousseau, vous nous dites que, pour l'instant, vous, en tout cas en Île-de-France, vous n'êtes pas débordé, vous n'êtes pas dépassé. J'entends que vous craignez de l'être si les cas se multiplient, mais pour l'instant, vous êtes, disons, en tension, mais on ne parle pas de débordement.
Quand on parle du Covid, et je pense qu'on doit tous être extrêmement modestes, on ne peut pas parler en faisant une photographie à l'heure où on se parle. Le Covid, c'est un virus qui progresse extrêmement vite. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que mardi dernier, il y avait 50 personnes en réanimation 5 jours après, il y en a 200. Ça va extrêmement rapidement. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas saturé nos capacités de réanimation, mais nous ne les avons pas saturées au prix d'un acte extrêmement fort et peu courant, qui est celui de la déprogrammation. Donc, on sait sans l'ombre d'un doute qu'on va vers une tension extrêmement forte. Et notre bataille en ce moment, c'est de monter une digue plus haute que la vague que nous allons prendre. Je prends ce vocabulaire un peu trivial, mais c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que nous essayons de libérer des lits, nous essayons de transformer des lits pour qu'ils deviennent des lits de réanimation. Nous avons mobilisé le public, le privé solidaire. Tous les acteurs sont sur le pont. Encore une fois, on nous reprocherait infiniment de n'avoir pas pris au sérieux ce qui est en train de se passer. Et ça voudrait dire qu'on est aveugle sur ce qu'on voit dans tous les autres pays du monde.
Et on vous le reprochait aussi si les chiffres n'étaient pas précis. Vous restez avec nous, Aurélien Rousseau. Xavier Lescure souhaite intervenir. Vous êtes le bienvenu. Monsieur Lescure, vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Vous connaissez très bien, le téléphone sonne désormais. Je vous en prie, allez-y. Vous avez envie de répondre à Marc, vous aussi?
C'était pour compléter ce que disait Monsieur Rousseau, c'est parfaitement clair, mais pour rajouter que d'un point de vue médical, et c'est parfois difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas du milieu, libérer un lit de réanimation, ça ne se fait pas en quelques heures, et c'est beaucoup plus compliqué de libérer un lit de réanimation que de libérer un lit en hospitalisation conventionnelle. Vous avez beaucoup plus de contraintes, et donc, comme disait M. Rousseau, il faut anticiper ça. Et aujourd'hui, on a une centaine de lits libres de réanimation en Île-de-France, puisqu'il faut anticiper et avoir une période de flottement, de vacances de lits, qui pourra nous permettre d'absorber la première vague et les premiers jours de la grosse vague qui nous attend dans les jours à venir ou avant la fin de la semaine.
Aurélien Rousseau, vous parliez de digue à l'instant et le mot a sonné à l'oreille de Laurent Chiltigan qui lui est dans effectivement cette zone du Grand Est et qui vous demande si du coup vous souhaiteriez, vous, qu'un confinement plus strict soit mis en place. Est-ce que ça vous aiderait, Aurélien Rousseau?
Ce qui est sûr, c'est que la première étape, nous avons fait, j'allais dire, le confinement en accompagnant les personnes malades, en identifiant leurs cas contacts, en mettant à l'isolement les personnes. Le but, c'était celui de ralentir la progression du virus. Aujourd'hui, vu le nombre de personnes contaminées, il faut qu'on passe à une autre échelle. Les comportements sociaux sont les seuls qui peuvent nous permettre de ralentir la progression du virus. Ce qu'il faut, je pense, comprendre, mais Xavier Lescure le dirait bien mieux que moi, c'est que ce virus, il va de toute façon progresser, il va de toute façon aller peut-être jusqu'à atteindre la moitié de la population française. Mais ce que nous devons parvenir à faire, c'est casser des chaînes de contamination pour qu'il ne progresse pas trop vite pour que nous n'ayons pas simultanément les cas les plus graves, c'est-à-dire 10 à 15% qui sont des cas sévères et 5% qui sont des cas graves qui arrivent en même temps dans les hôpitaux. Donc ces comportements individuels et notamment le confinement et notamment le fait de limiter strictement ces contacts sociaux, c'est ce qui va nous permettre de mettre le grain de sel, le grain de sable dans la mécanique extrêmement huilée de la progression d'une épidémie qui s'accélère. On le voit, elle s'accélère, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de cas en réanimation. Et donc maintenant, la réponse, elle est dans les mains des Français, elle est dans les mains de nos concitoyens, avec des contraintes, c'est sûr, extrêmement fortes, personne ne les relativise, mais il ne faut plus croire maintenant que simplement l'héroïsme, il va être celui des soignants, qui seront au front, qui vont sans doute être beaucoup d'entre eux en situation d'extrême tension et quelquefois de danger, mais ça n'est pas l'héroïsme, ça n'est pas que ça, c'est aussi des actes civiques du quotidien, chacun détient une part pour ralentir la progression de ce virus.
Alors, puisqu'il y a énormément de monde, pardon de vous interrompre Aurélien Rousseau, il y a vraiment beaucoup de monde, comme à chaque fois au 01 45 24 7000, c'est une nouvelle question pour vous et pour Monsieur Lescure aussi, d'ailleurs c'est Aude qui est à Rodez. Bonsoir Aude, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Allez-y. Alors, je vous appelle parce que je vous explique. Je suis couturière et une maison de retraite nous a contactés parce qu'ils sont plus approvisionnés en masques. Donc, ils nous ont fait parvenir un patron avec des notices de montage, en fait, pour confectionner le masque. Donc, il est en coton, doublé. Et en fait, on prévoit une ouverture sur le haut du masque entre les deux parois de coton pour y glisser un papier plastifié type champ opératoire, vous voyez, qui changeront en fait et jetteront au fur et à mesure. Donc je me posais la question de l'efficacité de ces masques, de leur utilité, etc.
Merci beaucoup pour votre question, Aude. Voilà quelque chose de très concret, Aurélien Rousseau et Xavier Lescure. Monsieur Rousseau d'abord peut-être. Est-ce qu'elle travaille pour quelque chose, Aude, là, ou est-ce que ce sera inutile, les masques qu'elle est en train de confectionner ?
D'abord, la première réalité, c'est que nous sommes dans une phase de très forte tension sur ces masques. Personne ne le nie. Et le choix qui est fait, la priorité qui est faite, mais qui est affichée de façon transparente, c'est que ces masques, ils doivent servir à protéger les soignants qui vont prendre en charge les malades coronavirus positifs, parce que c'est le système de santé qui doit tenir dans cette période. Après, d'abord, on a beaucoup d'initiatives, on a beaucoup d'appels de personnes ou même d'entreprises importantes qui nous disent on peut se mettre à produire de la solution hydroalcoolique, comment on fait pour fabriquer des masques. Il y a un travail en ce moment même qui a lieu entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, beaucoup d'acteurs pour essayer de produire des masques qui ne vont pas être ceux qu'on a aujourd'hui avec la norme CE, etc., mais des masques qui protègent. On est en train d'inventer des solutions, d'essayer de stimuler des innovations pour qu'on puisse avoir des productions françaises. Le seul point que je peux dire, c'est que le masque, c'est un élément de protection, donc on ne peut pas le faire, non pas artisanalement, mais on ne peut pas le faire si on n'est pas sûr qu'il protège, parce que la personne qui va soigner notamment, il faut qu'elle soit totalement en confiance, on lui doit ça. On doit aux soignants de les protéger. Donc là-dessus, on ne peut pas se permettre l'à peu près dans la garantie et dans la protection par rapport au virus.
Xavier Lescure, il y a tellement de questions autour de ce port de masque. Nous avons celle-ci sur franceinter.fr par exemple. On nous dit porter un masque quand on est malade, faut-il le porter réellement ? Ne serait-il pas logique de demander finalement à chacun un masque pour protéger les autres ? On a bien entendu ce que vous nous dites tous depuis longtemps. Ce sont les soignants évidemment qu'il faut protéger en priorité. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, lorsqu'on aura trouvé, comme le dit Aurélien Rousseau, un moyen d'en avoir plus et beaucoup plus, est-ce que ça n'est pas aussi, au fond, une barrière psychologique qui peut être importante pour les gens que de pouvoir s'en fournir ?
Probablement, et c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait mettre des masques beaucoup plus fréquemment qu'on ne pourrait le faire aujourd'hui. Le fait de porter un masque quand on est malade, ça protège l'autre. Et le fait de porter un masque quand on est soignant, ça protège soi-même et ça évite que le soignant soit un vecteur d'un patient infecté à un autre non encore infecté. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on est obligé de réguler tout ça. On en a probablement pour quelques jours sur une utilisation régulée et non systématique. Et il faut pas se rétracter sur des réflexes un peu simplistes qui serait de mettre un masque du matin au soir pour tout le monde, soignant, soigné, usager, citoyen, à la maison, dans la rue. Ça, c'est impossible, ça ne tient pas et ça n'est pas efficace.
Aurélien Rousseau, une autre question sur franceinter.fr. Il y a eu une déclaration de l'OMS qui date de là, cet après-midi, il y a à peine une heure, et qui dit « Nous avons un message simple à tous les pays, testez, testez, testez les gens ». C'est ce que dit le directeur général de l'OMS. Mais pardon, moi j'ai cru comprendre jusqu'à présent qu'il était inutile de tester tout le monde, puisque si je ne suis pas infecté aujourd'hui lundi à 18h30, je pourrais aussi bien l'être demain matin, mardi à 7h. Donc qu'est-ce que je dois comprendre de cette injonction de la part de l'OMS ?
Écoutez, moi je ne vais pas commenter cela. Ce que je peux dire, mais Xavier Lescure serait plus à même que moi de le dire, c'est que notre stratégie épidémiologique et j'allais dire y compris notre culture, notre savoir-faire en la matière dans la gestion des épidémies en France, il n'est pas contesté et qu'on a un mélange entre des prélèvements qui nous permettent de savoir où en est l'épidémie dans la population et après on entre dans une phase où l'approche elle va être symptomatique. Les gens, on n'aura plus besoin de qualifier biologiquement le fait qu'ils sont ou pas Covid positifs. La question, c'est est-ce que le fait de tester nous apporte quelque chose quand on va devoir soigner ? Est-ce que le fait de tester nous permet de dire, parce que c'est une personne fragile, on va être encore plus attentif à ce qui se passe à J+7, J+8, parce que vous savez que cette maladie, on a souvent des dégradations à J+7, J+8. La question, c'est est-ce que le test nous permet, un, de mieux maîtriser la propagation du virus, deux, de mieux couvrir d'un point de vue de la réaction et de la du choix des médecins. Aujourd'hui, je pense que notre dispositif nous permet de savoir comment le virus progresse. Et deuxièmement, on a priorisé les tests sur ceux dont on considère qu'ils sont indispensables. Et par ailleurs, les virologues, ceux qui font ces tests, ils nous sont utiles en permanence pour faire face à tous les autres virus qui circulent en France. Et c'est une de nos préoccupations majeures. Le Covid, on doit limiter à de toutes nos forces la mortalité. Mais on ne doit pas oublier que pendant ce temps-là, on doit soigner beaucoup d'autres maladies et beaucoup d'autres malades dans ce pays et qu'on ne doit pas déstabiliser notre organisation à ce profit-là. Mais Xavier saura nous dire mieux que moi aussi des débats de doctrine internationale là-dessus.
Eh ben, Xavier Lescure,
aujourd'hui, on est capable de savoir ce qui se passe précisément.
Eh ben, Xavier Lescure, allez-y. Effectivement, je ne vais pas vous demander d'avoir un commentaire, un avis, un jugement sur ce que dit l'OMS, mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension entre on ne teste que les gens dont on sait qu'ils peuvent développer la maladie de manière grave, et là l'OMS qui dit tester.
Oui, en fait tous les pays n'en sont pas au même niveau, et comme l'a très bien dit Aurélien Rousseau, quand vous rentrez dans la maladie à l'échelle nationale, vous devez traquer les premiers cas et tenter de résoudre chaque histoire de cas autour d'une chaîne de transmission éventuelle pour la limiter, voire la tarir. Et donc, à cette phase-là, les premières phases, la phase 1 et la phase 2, jusqu'à la phase de cluster, il faut tester, il faut traquer chaque cas et le documenter virologiquement avec un test pour pouvoir faire l'enquête autour du cas. Quand vous êtes dans une phase épidémique, on n'est plus du tout dans ce contexte, comme l'a très bien dit Aurélien Rousseau, l'objectif est de faire en sorte que la population a un rythme permettant de ne pas saturer le système de soins. L'objectif est que 50 à 60% de la population d'un pays soit immunisée, c'est-à-dire ait rencontré le virus et développé les anticorps pour lutter contre l'infection. C'est d'aboutir ainsi à une immunité qu'on appelle de troupeau, une immunité populationnelle, pour que les 50 à 60% premier pourcent protège les 50 à 40 deuxième pourcent. Et l'objectif est que les 60% qui s'infectent pour protéger les autres ne soient pas les plus fragiles, ne soient pas les plus malades, pour que les moins fragiles protègent les plus fragiles et les plus âgés et les plus comorbides. Et donc dans cette phase-là, ça ne sert à rien de tester à tout va, puisque en France, on est dans un flux tendu et de tests et d'amorces, et même d'écouvillons, et de prélèvements. Et donc, si on teste tout le monde, on ne pourra pas tester les plus graves, qui, eux, doivent être documentés par un test pour avoir la prise en charge la plus adaptée, avec éventuellement des thérapeutiques dans des essais cliniques, et pour avoir une prise en charge la plus adaptée et optimale pour tenter sauver les patients les plus sévères en réanimation.
Donc
aujourd'hui, on ne teste que les patients graves, et la doctrine qui doit être mise en place en France sur une phase épidémique, c'est de gérer, comme l'a dit Aurélien Rousseau, sur une approche syndromique, c'est-à-dire sur les symptômes sans forcément un diagnostic confirmé virologiquement, tous les patients qui n'ont pas de gravité ou de fragilité, dans le système de soins primaires, avec les médecins de ville, sans faire forcément de diagnostic définitif.
Encore une question sur franceinter.fr, parce que le standard est un peu à la peine, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est Héloïse qui vous dit, est-ce que vous pouvez clarifier une bonne fois pour toutes la situation concernant la prise des anti-inflammatoires pour des symptômes de coronavirus? On a un peu entendu tout et son contraire, on nous a dit anti-inflammatoires, ibuprofène, doliprane, etc. Le fin mot de l'histoire, si je puis dire, Xavier Lescure, là-dessus, c'est quoi?
Alors, c'est une histoire récente qui n'est pas clairement confirmée, mais qui est logique avec l'histoire que l'on sait des infections virales, c'est qu'elles peuvent se surinfecter avec des bactéries et que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène et autres, inhibent le système immunitaire vis-à-vis des défenses contre les bactéries et vous rend plus sensible à une éventuelle surinfection d'une bactérie au cours d'une infection virale. Et c'est vrai que, sur cette hypothèse-là, la prise d'INS peut être un facteur de mauvais pronostic et d'évolution défavorable.
Mais donc, est-ce qu'on dit très concrètement, monsieur Lescure, préférer le doliprane, en fait, aussi bêtement que ça? Est-ce qu'on le dit aussi simplement que ça, plutôt?
Alors, pour le dire simplement, préférer le paracétamol.
D'accord.
plutôt que tout anti-inflammatoire non stéroïdien qui peut vous mettre à risque de surinfection bactérienne.
Parfait, merci beaucoup pour cette clarté. Beaucoup de gens veulent revenir sur le problème des masques, puisque cette émission est la vôtre. Allez-y, Eric, je vous en prie, soyez le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Voilà, moi j'habite un petit village en Bretagne, je viens d'aller faire des courses, personne n'a de masque, on était hyper nombreux dans le magasin, les caissières ont des petits gants en plastique constant, n'ont pas de masque. Et alors, bon, votre invité a un peu répondu sur l'histoire des masques, mais c'est pas qu'il a botté en touche, mais j'ai pas compris la réponse. Je sais pas, avoir un masque, ce serait intenable, c'est pas la solution, mais je ne comprends pas. Enfin, c'est.
Eh ben, on va essayer de vous réexpliquer, Eric. On est vraiment là pour ça. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Aurélien Rousseau, est-ce que vous pouvez réexpliquer à notre ami Eric pourquoi il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir si on n'est pas un soignant? Et j'imagine que vous comprenez, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce d'effet psychologique si on pouvait porter un masque. Est-ce qu'on peut redonner des informations à notre ami Eric?
Oui, mais moi, évidemment, on comprend parfaitement cet effet psychologique, mais il peut être un peu paradoxal, parce que si le masque et le port du masque faisaient qu'on baissait la garde sur les mesures basiques de mise à distance, eh bien, on aurait tout raté. Parce qu'aujourd'hui, le virus, il est beaucoup sur vos mains, par exemple. Hein. Donc, le fait de ne pas se serrer la main, le fait de garder ses distances est une protection extrêmement efficace. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que personne ne peut dire qu'on avait cette épidémie telle qu'elle se déploie dans le monde entier. Elle était prévue, prévisible à ce degré-là. Donc l'attention sur les masques, on l'a dans tous les pays du monde, absolument dans tous les pays du monde. Et donc à partir de là, face à cette tension, effectivement, il faut des priorités. Ces priorités, il faut les dire de façon transparente, parce qu'il n'y aurait rien de pire que si les Français pensaient qu'il y a des passe-droits. Il n'y a qu'une priorité, c'est celle de protéger les soignants. Ce qu'on a vu en Chine, ce qu'on a vu en Italie, c'est que le moment où le système vacille, c'est si les soignants sont eux-mêmes massivement contaminés. À ce moment-là, les hôpitaux ne peuvent plus tourner. Et donc, on revient sur cette question-là. Le sujet n'est pas d'arrêter l'épidémie de coronavirus. Le sujet, il est de pouvoir soigner dans de bonnes conditions les cas graves, pas les 85% de cas bénins, les cas graves de coronavirus. Et pour ça, il faut préserver, protéger le système de santé. Mais donc c'est pour ça que c'est fait comme ça. Dernier point, il serait illusoire de penser, vous savez, un masque, il faut le renouveler tous les 3 ou 4 heures, qu'on aurait demain matin la possibilité de couvrir tout le territoire. Et encore une fois, je le redis, on a entre les mains, c'est le cas de le dire, le moyen de freiner cette progression, de freiner, d'aplatir ce pic de sollicitation à venir du système de santé. Et rien ne peut nous dispenser de faire les actes quotidiens pour assurer cette responsabilité civique.
Merci beaucoup pour cette clarification. Restez avec nous si vous le pouvez, messieurs. Je voudrais qu'on aborde aussi un autre sujet de cette journée d'aujourd'hui, grâce à également un autre invité. Avant cela, voici la question d'Églantine. Bonsoir à vous, Églantine.
Bonsoir, c'était plus une remarque qu'une question. Je suis enseignante et Jean-Michel Blanquer avait affirmé que l'éducation nationale était prête pour l'enseignement à distance. Et depuis ce matin, on voit défiler sur les réseaux sociaux, et j'ai pu constater moi-même, que les environnements numériques de travail comme Pronote par exemple sont saturés et ne fonctionnent pas. Donc autant on a l'habitude que le ministre de l'éducation nationale raconte n'importe quoi, vu qu'il avait déjà affirmé à la base qu'il n'était pas dans l'intérêt de fermer les écoles, et puis vu les réformes et l'espèce de simulacre de consultation en ligne qui a été lancé il y a quelques jours, mais c'est quand même affolant de constater que rien n'est prêt et qu'en plus la fracture numérique n'est même pas prise en considération.
Et merci pour votre question, Églantine. Et elle est pour vous, Rodrigo Arenas. Bonsoir, monsieur Arenas.
Bonsoir.
Vous êtes coprésident de la FCPE et c'est vrai, on l'a entendu tout à l'heure également dans le journal de 18h, l'espace numérique de travail a bugué très vite. Est-ce que vous savez si c'est immédiatement réparable pour que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions, parce que les écoles, rappelons-le, sont fermées jusqu'à nouvel ordre?
Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, que c'est une situation nationale, puisqu'on a organisé aujourd'hui à midi et demi un point téléphonique avec tous les représentants départementaux de notre fédération, et effectivement, les serveurs ont sauté partout. Ce qui est curieux, c'est que c'était déjà le cas dans le Haut-Rhin, où ça, qui avait servi de test en fait à grandeur d'un département où déjà ces problèmes s'étaient manifestés, mais d'une certaine façon les bugs techniques, nous n'avons pas d'informations au moment où je vous parle de la part du ministère, ce qui est un peu inquiétant aussi parce que nous sommes des vrais relais d'opinion sur ces sujets-là, mais nonobstant, aujourd'hui la priorité c'est la santé des enfants et j'ai envie de vous dire que c'est ce que nous véhiculons d'abord puisqu'il y a un certain nombre de fake news qui circulent partout dans les réseaux sociaux et on essaye tant bien que mal de leur tordre le cou parce que ce qui compte c'est la santé des gens dans un premier temps.
Mais concrètement, Rodrigo Arenas, là-dessus, est-ce qu'on peut dire, j'imagine que vous, FCP, vous vous êtes renseigné, est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent et qui font travailler leurs enfants sur ce genre de plateforme, puisque l'école évidemment n'existe plus pour un certain temps, est-ce qu'on peut leur dire tout ça va être remis en place? Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on est incapable de le dire aujourd'hui?
Moi, je suis incapable de vous le dire, en tout cas, en tant que coprésident de la principale fédération de parents d'élèves. Ce que je sais, c'est que les gens y travaillent, c'est les messages que donnent les recteurs et les rectorats, mais en tout cas, on n'a pas d'informations directes de la part du ministère. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, ce qui est d'ailleurs inquiétant. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont largués parce qu'on parle de continuité pédagogique, mais ça n'existe pas. Et on ne peut pas faire croire aux Françaises et aux Français et aux parents d'élèves que faire l'école à la maison avec le meilleur soutien informatique du monde va remplacer des enseignants. Les enseignants, pour la plupart, un certain nombre nous interpellent, nous envoient des mails, ils nous appellent pour dire qu'ils ne sont pas formés pour cela. Et en fait, toute la pression est en train de retomber sur eux. Donc, à un moment donné, il va falloir que tout le monde entende que non, les parents qui télétravaillent, les parents qui sont avec les enfants, les parents qui simplement essayent de se connecter, les parents qui sont allophones, qui comprennent pas forcément comment c'est écrit, où les enfants des fois sont mieux formés qu'eux aux outils informatiques, ne pourront pas faire la classe à la maison comme s'ils étaient à l'école. Heureusement d'ailleurs, parce que ça sous-entendrait que l'école ne sert à rien. On voit bien aujourd'hui que ce qui résiste, c'est le service public. Et excusez-moi, je profite de l'occasion pour vraiment rendre hommage à tous ces enseignants qui sont mobilisés au pied levé, comme les infirmiers, les médecins auxquels vous venez de faire état, parce qu'en fait, la seule chose qui résiste en ce moment, c'est le service public. Mais à ça, il faut ajouter une dose de civisme. Et c'est ce que nous employons à faire.
Alors, pardon,
aujourd'hui, la question prioritaire, c'est la santé. Voilà. C'est pas de faire l'école à la maison.
On est d'accord, mais pardon de le dire comme ça, mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que même vous dites, vous, FCPE, on va faire une croix ou une semi-croix, en tout cas, pour l'instant, sur les cours, parce que c'est extrêmement difficile à organiser, que ça va être extrêmement, au fond, inégalitaire d'une école à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'un prof à l'autre. Donc, autant mettre tout ça entre parenthèses. Est-ce que c'est ce que vous dites?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment précis où je vous parle, le coronavirus, d'une certaine façon, a accentué les inégalités scolaires, a accentué l'éloignement de certains parents et de certains enfants par rapport à l'école, et que les enseignants ne peuvent pas tout. Donc ce n'est pas une réalité. Donc les parents, aujourd'hui, comme les enseignants, se débrouillent autant qu'ils peuvent, autant qu'ils le souhaitent, et autant aussi qu'ils sont équipés, puisque vous le savez, tout le monde le dit maintenant, les bandes passantes ne sont pas les mêmes à l'échelle de tout le territoire national, la fracture numérique existe en termes d'équipement, mais aussi en termes d'usage. Donc ce n'est pas vrai. La question du bilan qu'il faudra faire de ça va devoir venir très vite. Il nous semble, nous, qu'une sorte d'année blanche va s'imposer parce que quand les élèves vont reprendre les cours dans 5 semaines peut-être, on sait même pas, on va attendre ce que va dire le président de la République, hein, d'ailleurs une parole forte de l'État est souhaitable, on verra à ce moment-là comment les choses vont être évaluées. Derrière, il y a le bac, il y a les BEP, il y a les CAP.
On a entendu ce que vous dites sur une éventuelle année blanche, en effet, ou en tout cas de très grosses indulgences, je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer effectivement pour les examens. Puisque Marie-Lise Léon est là avec nous, qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT, j'ai entendu que vous vouliez intervenir. Madame Léon, je vous en prie, l'antenne est à vous, allez-y.
Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, je voulais juste apporter une précision sur la question de est-ce qu'il faut faire une croix sur la question de la qualité de l'enseignement et le fait qu'il puisse y avoir une période
de... Un hiatus très important, ouais.
Il y a un hiatus. Après, je pense qu'on est en gestion de crise et que les choses doivent être prises les unes après les autres. Il y a un moment, on est dans un moment où les écoles ferment et la question de la présence des agents, leur possibilité de rester à la maison ou pas, parce qu'eux-mêmes peuvent être parents, donc il faut faciliter au maximum cette possibilité de garder ses enfants à la maison. Et je vous rappelle que dans le cas de la fonction publique, il y a toujours un jour de carence qui s'applique, qui n'est pas juste, puisque c'est pas le cas dans le secteur privé. Et puis, comme l'avait fait notre Fédération d'éducation nationale, il va inévitablement falloir mettre en place un suivi des élèves qui, d'une part, sont pas équipés d'ordinateurs ou qui n'ont pas
Bien
de connexion.
Pour voir qui prend du retard par rapport à qui où on creuse des écarts.
Absolument, ça se fait progressivement. Je pense qu'il y a l'installation du dispositif qui nous occupe tout de suite, immédiatement, et puis bien entendu de ne pas perdre de vue ce risque de creusement d'inégalité entre les élèves qui est un gros sujet de préoccupation.
Xavier Lescure, vous voulez intervenir, le médecin a son mot à dire évidemment dans ce débat-là. Allez-y monsieur Lescure.
Non, je voulais juste faire un petit commentaire sur quand même la gravité de la situation, hein, c'est-à-dire que on est à l'orée d'une crise sanitaire majeure. Mm-hmm. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mm-hmm. Ça a été annoncé. On est sur une maladie qui devra dans des délais plus ou moins longs infecter 50 à 60% de la population pour qu'on puisse voir le taux d'incidence et la progression de la maladie diminuer. Mmh. Avec 1% de mortalité, et on est vraiment dans une situation critique où on doit tous être bienveillants, tolérants les uns avec les autres, tolérants et bienveillants avec les décisions qui sont prises. Je pense qu'on pourra critiquer après ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait. Il faut qu'on soit dans une vision collectiviste, solidaire, et il va y avoir des conséquences collatérales qui vont être plus ou moins graves, sociétales, économiques, majeures. Effectivement, il va falloir qu'on priorise notre niveau d'exigence par rapport à certaines conséquences de mesures sanitaires qui sont prises ou qui ont déjà été prises. Il y a une part importante de la gestion de la crise qui est le versant psychologique. Il faut qu'on soit tous bienveillants puisque on sait très bien que à crise égale, le caractère psychologique, qu'il soit sociétal ou économique, va peser très lourd dans la balance.
Et le principe même, c'est j'allais dire la définition même de la pondération, au fond, l'équilibre des forces contraintes et la difficulté justement de manier ces forces contraintes. Tiens, puisque vous êtes revenu, monsieur Lescure, il y a une question pour vous, elle vient de Daniel. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir France Inter.
Allez-y.
Merci pour vos émissions. Je pose la question est suivante. Je suis âgé de 74 ans, j'ai quelques facteurs de risque et j'ai un petit enfant qui a 3 ans et demi, qui était donc en maternelle en maternelle, et donc qui est maintenant enfermé et on lui a demandé de rester à la maison et ma fille a été obligée de poser un arrêt de travail. Ma question est la suivante. Combien de temps dois-je attendre avant soit de revoir mon petit-fils, soit de leur demander de venir se réfugier dans ma maison, puisque je suis en pleine campagne.
Merci pour votre question.
Attendez, pardon. J'ai encore quelque chose.
Allez-y,
excusez-moi.
Pardon.
La deuxième des choses, c'est que je suis pas trop mauvais en mathématiques. Ah. 60% de la population, c'est 40 millions de personnes. 1% de mortalité, c'est 400 à 500 000 personnes. Mm-hmm. Donc ça, il faut dire ce chiffre-là, parce que c'est comme ça qu'on prend bien conscience. Ma grand-mère étant morte de la grippe espagnole en 1918.
Et ben voilà, comme ça, il y a une sorte de boucle dans l'histoire familiale chez vous, d'une épidémie à l'autre. Daniel, on va essayer de répondre à votre question, Xavier Lescure. Est-ce qu'on peut répondre à ce genre de question, au fond, sur à quel moment je pourrais voir mon petit-fils, ou est-ce qu'on est incapable de répondre à Daniel, évidemment?
Non, c'est une excellente question, une excellente remarque.
Ouais.
La remarque vis-à-vis de la mortalité et du nombre estimé de morts, par exemple, sur la population française, elle se base sur une répartition spontanée, une dispersion spontanée de la maladie. Et comme l'a dit Aurélien Rousseau, l'enjeu aujourd'hui, c'est que ce soit les non-fragiles qui s'infectent. Et si ce sont d'abord les non-fragiles qui s'infectent, on aura moins de 1% de mortalité. Mmh. Et tout l'enjeu est là. Il faut pas que ça aille trop vite et il faut protéger les plus fragiles. Et évidemment, cette question est majeure. Quand vous fermez les écoles, le réflexe familial de base et qui est normal, c'est que est-ce que les grands-parents peuvent garder les enfants? Dans ce modèle-là, c'est contre-indiqué. Ça peut devenir indiqué, ça peut devenir possible à partir du moment où l'enfant, en considérant qu'il est resté entre guillemets dans un circuit fermé pendant 7 à 10 jours, c'est-à-dire qu'il n'est pas en période d'incubation et qu'il ne risque pas d'être malade, peut voir ses grands-parents. Avec l'hypothèse que les enfants sont ceux qui font les formes les plus souvent asymptomatiques, et que même s'ils n'ont pas de symptômes, ils peuvent transmettre la maladie. Donc c'est une question à réponse difficile, et il faut au moins garder 14 jours, enfin 7 à 10, voire 14 jours de sécurité, si tant est que l'enfant n'ait pas eu de contact avec des personnes malade.
Et merci de cette clarté, Xavier Lescure, parce que c'est important aussi que les gens sachent bien que rien n'est totalement linéaire là-dessus. Évidemment que c'est très compliqué de donner des réponses qui seraient aussi simples que ça c'est oui et ça c'est non. Rodrigo Arenas, je sais que vous vouliez intervenir à nouveau, je vous en prie. Ensuite, il y aura une question pour Marie-Lise Léon. Allez-y, monsieur Arenas.
Oui, c'était vous dire que la question des bugs aujourd'hui va être, j'imagine, va être corrigée d'ici la fin de la semaine ou les deux semaines, ça va aller. La question, c'est que la continuité pédagogique, ce n'est pas les parents qui peuvent la faire, ça c'est une évidence. Mais surtout, on est au moment des solidarités. Et aujourd'hui, par exemple, on avait demandé à ce que le service public, notamment les médias, mettent en ligne des émissions pédagogiques pour les enfants, pour accompagner les parents aussi et aussi répondre à leurs inquiétudes par rapport à une situation qu'ils ne connaissent pas. Le confinement est une question nouvelle pour tous les enfants de notre pays, et donc il faut aussi avoir cet accompagnement un peu psychologique des parents et des élèves pour qu'ils affrontent cette situation nouvelle de confinement. Donc on a vu que le gouvernement, à travers, j'imagine, ou les services publics par eux-mêmes, ont répondu à cette demande qui est centrale. Si on sait que les enfants vont être devant les plaquettes ou la télévision régulièrement parce que les parents doivent bosser ou qu'ils doivent aussi faire la vie de tous les jours à la maison, eh ben il faut que quand ils seront devant les émissions, ils puissent avoir des choses intelligentes. Maintenant se pose autre chose.
On essaye. Hein.
Se pose le fait que dans les écoles, dans les établissements, il y a des bonnes pratiques qui sont en train de se mettre en place. Les musées sont en train de mettre en ligne leur collection virtuelle. Il faut que justement le gouvernement aujourd'hui organise cela, c'est-à-dire mettre des sortes de forums de discussion pour que les parents puissent se connecter école par école, établissement par établissement pour échanger ces bonnes pratiques, y compris s'entraider. La solidarité, ça s'organise. Et nous, on vous le dit, on a une réunion aujourd'hui à la FCPE avec tous les départements de France. Si le gouvernement ne prend pas la mesure d'organiser cette solidarité qui est technique, nous le ferons parce qu'elle est centrale. La solidarité, c'est pas juste le dire, c'est aussi le faire. C'est aussi l'organiser et ça demande un peu de moyens et c'est aussi le rôle des associations de le faire. Nous demandons au gouvernement dire, de prendre en charge, mais si elle ne peut pas faire, nous saurons le faire à notre niveau.
Mais peut-être aussi, Rodrigo Arenas, qu'on peut peut-être oublier pendant un certain temps les programmes stricto sensu et se dire que votre enfant apprend aussi des choses effectivement lorsqu'il visite le musée du Louvre, lorsqu'il est sur le podcast d'une de nos radios ou une autre.
Exactement.
Une question.
Ou qu'on apprend à faire du yoga avec ce genre de choses qui sont très importantes quand on est confiné, notamment dans les espaces réduits.
Absolument. Une question pour vous, Marie-Lise Léon, c'est celle d'Antoine. Bonsoir, Antoine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Antoine.
Oui, voilà, simplement une simple question. On parle beaucoup donc du télétravail et on a l'impression qu'on va régler ce problème par le télétravail. Mais est-ce qu'on est en capacité de savoir quel est le pourcentage de salariés aujourd'hui qui peuvent travailler depuis leur domicile?
Merci Antoine. Est-ce qu'on peut avoir ce chiffre, Marie-Lise Léon? J'imagine que c'est compliqué.
C'est compliqué. Ce que l'on a eu, nous, comme élément de la part du ministère du Travail, c'est qu'ils estiment à un emploi sur trois susceptible d'être fait en télétravail. Donc, il reste quand même deux tiers de ces emplois qui ne peuvent pas être faits en télétravail. Et donc, l'employeur est encouragé, et pour la CFDT, c'est une solution, bien entendu, qu'il faut encourager, voire généraliser. L'enjeu est bien qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent rester chez soi. Lorsque le télétravail n'est pas possible, là, il faut regarder quelles sont les dispositions, soit que l'employeur organise pour pouvoir maintenir une activité, mais compatible avec, bien entendu, les gestes de prévention et limiter les interactions et les relations entre les travailleurs. Et puis sinon, il y a le dispositif activable, dont les modalités ont été facilitées, qui est ce qu'on appelait le chômage partiel, qui est l'activité partielle, pour lesquels les entreprises peuvent donc déclarer collectivement des salariés en activité partielle. Et dans ce cadre-là, la prise en charge d'une partie des salaires est assurée par l'État.
Merci beaucoup. J'ai une sorte de cas d'école à vous soumettre, Aurélien Rousseau, si vous êtes encore là.
Oui.
Voici un cas de quelqu'un que nous connaissons, donc on l'a vraiment, j'allais dire, en face de nous, justement pas en ce moment, qui a eu une forme de grippe dont nous avons tous considéré qu'il avait eu peut-être une forme de coronavirus qui était comme 80% des gens est ce que vous décriviez, c'est-à-dire qui s'est arrêté à ce stade-là, donc il n'a pas été testé, mais il a été soigné et aussi confiné pour 14 jours. Et voilà qu'il nous dit aujourd'hui que ma situation aujourd'hui a changé. Attendez, je retrouve le mail. Je sors de chez le médecin après un petit passage aux urgences cette nuit. Je suis maintenant positif au coronavirus virus et officiellement déclaré malade. Est-ce qu'il peut y avoir chez des gens, est-ce que c'est un cas très particulier, est-ce qu'il peut y avoir deux phases en quelque sorte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît cohérent et surtout régulier chez les gens?
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le coronavirus, on a des situations dans lesquelles on a des personnes faiblement symptomatiques ou même avec des symptômes plutôt grippaux et qui connaissent une dégradation au bout de 7-8 jours. C'est des éléments qu'on a documentés au fur et à mesure, et je parle avec beaucoup de prudence devant Xavier Lescure qui a vécu ça en direct. Je pense notamment aux tout premiers patients qui ont été hospitalisés dans son service, qui nous ont conduits collectivement, y compris dans les outils qu'on est en train de déployer pour le suivi à domicile des patients, à avoir une alerte spécifique dans ces trois jours autour de 6, 7, 8 jours.
Mais ça veut dire qu'on peut aussi se sentir mieux, en fait, avoir le sentiment que c'est bon, cette espèce d'état grippal est passé, et paf, finalement, en quelque sorte, rechuter. Il peut y avoir cette espèce de descente et de pic à nouveau.
Ça veut dire, en effet, que on ne doit pas considérer que parce qu'une forme paraît assez peu symptomatique ou des symptômes qui peuvent être ceux d'une grippe lambda, on ne doit pas baisser la garde. C'est pour ça que les médecins, que ce soit les médecins hospitaliers ou les médecins de ville dans la phase maintenant où l'épidémie est là, vont devoir avoir une attention toute particulière dans la durée de cette maladie. On ne classe pas définitivement le dossier. Un patient coronavirus positif, il doit être suivi. C'est pour ça, je le disais, la PHP notamment, avec l'ARS a développé une application dédiée de suivi dans laquelle, je le disais, il y a un calendrier et il y a une alerte particulière faite aux patients et aux soignants pour être encore plus en vigilance pendant cette période-là. Mais je voudrais juste rajouter un point, parce que Xavier l'a dit de manière forte, mais je voudrais le dire à mon tour, et parce que votre auditeur a aussi posé la question. On va avoir une épidémie qui arrive, elle est là, elle va être forte. Pour l'instant, notre pays a un regard notamment sur les morts qu'on compte tous les jours, un regard un peu statistique. Il va y avoir des personnes qui vont mourir, pas que des personnes âgées. Et donc la bataille dont on parle pour que le système de santé soit capable de prendre les personnes et les personnes les plus graves, c'est pas une bataille désincarnée. Et quand on a pris cette décision, quand le gouvernement a décidé la fermeture des écoles, on voit tout à fait, moi-même je suis parent d'élèves, je vois très bien ce que ça implique dans le quotidien des gens. Mais si on a pris cette décision à ce moment-là, au moment où il fallait la prendre, c'est parce qu'on pense qu'on a encore la possibilité de freiner. Et donc oui, on est dans l'urgence, oui, il y a des choses qu'on doit sans doute améliorer, mais aujourd'hui, en tête de liste de toutes nos préoccupations, c'est celle de permettre que le coronavirus, on limite sa mortalité, parce que oui, on est dans une maladie qui n'est pas une maladie anodine, qui est une maladie, comme vous l'avez dit, qu'on découvre aussi progressivement, et donc on est extrêmement vigilant. Ça suppose de prendre des décisions rapides quelquefois de les changer au bout de 24, 48 ou 72 heures, parce qu'on a des nouvelles données, mais ça, il faut l'assumer. On est dans une phase d'une épidémie émergente et on doit s'adapter en permanence.
Merci beaucoup, merci vraiment. Il y a encore de nombreuses questions, vous inquiétez pas, on a encore du temps devant nous. Merci à tous ceux qui ont pu répondre dans les conditions que l'on sait. Soyez tranquilles, on n'est pas fini. On salue nos amis de France Culture qui reprennent la main sur leur antenne. Et nous, on reste ensemble pour encore 2 heures.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Et c'est à vous de jouer une nouvelle fois, à vous de nous dire ce que vous vivez en ces temps de coronavirus et en attendant une deuxième intervention du président de la République. Ce sera tout à l'heure à 20h. Un médecin, bien sûr, est là pour répondre à vos questions liées directement au virus. N'hésitez pas, c'est un médecin de ville, donc le même que le vôtre peut-être. Et puis, nous parlerons de notre civisme à tous, notre capacité à suivre des directives qui sont parfois très contraignantes, mais qui pourraient d'ailleurs l'être encore plus. Nous parlerons de notre solidarité, de notre discipline. On reviendra également sur vos inquiétudes liées à votre travail. L'économie tout entière, évidemment, est bouleversée. C'est l'économie mondiale aussi. Et forcément, tout cela retombe sur nous, tous les pays en ordre plus ou moins dispersé. Essayez de prendre des mesures destinées à amortir les chocs jusqu'à 20h. L'antenne est à vous et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
C'est avec vous qu'on commence. Jean-Bernard, bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y, Jean-Bernard.
Eh bien voilà, je voulais justement vous parler de civisme parce que je travaille dans la grande distribution, dans un hypermarché, et aujourd'hui j'ai vécu des scènes d'horreur. C'était vraiment, on a eu plus de 8000 clients aujourd'hui dans le magasin. Mm-hmm. Donc 8000, vous vous rendez compte.
Ce qui d'habitude, donnez-moi une idée, donnez-moi un lundi habituel, voire un samedi par exemple, pour avoir une idée.
Un lundi habituel, on doit faire 2500 à 3000 clients.
D'accord.
Donc un samedi, 4000, 4500. Okay. Non, aujourd'hui, c'était 8000.
Donc vous n'avez jamais vu autant de monde en fait.
On était sur des chiffres records de 23 décembre.
D'accord.
Et aucun civisme, personne ne s'écartait. Tout le monde faisait comme si ne se passait rien. Mm-hmm. C'est désolant, c'est à désespérer de l'espèce humaine.
Est-ce que vous avez fait des remarques? Est-ce que vous êtes contenté de regarder? Parce qu'effectivement, je vous imagine bien tout seul, Jean-Bernard, devant 8000 personnes. Mais est-ce que vous vous en êtes un peu parlé? Est-ce que vous discutez avec les clients? Dans ces cas-là, les réponses, elles disent quoi?
Oui. Eh bien, on nous envoie balader.
Okay.
On nous dit que si on n'aime pas notre travail, eh bien, il y en a...
Ah, mince alors. Voilà qu'on a perdu Jean-Bernard, c'est dommage. Est-ce qu'on a vraiment...
Allô?
Ah, ça y est, je vous ai retrouvé, Jean-Bernard.
Oui.
Pardon, allez-y. Donc vous disiez, les gens vous envoient balader.
Oui, exactement, oui, oui. Et encore, bon, moi j'ai la chance d'être en rayon, donc de pouvoir bouger, mais pensez aux hôtesses de caisse qui sont là face aux clients et qui ne peuvent pas bouger, c'est avec des gens qui viennent leur parler à 40 cm du visage, c'est une horreur. C'est une horreur.
Merci pour ce témoignage, Jean-Bernard, qui nous rappelle un petit peu les images en moins violentes qu'on a pu voir dans les parcs, dans les jardins, y compris dans les bars, lorsque les restaurants ont annoncé qu'ils devaient fermer et les bars à partir de minuit. Là-dessus, je voudrais qu'on appelle Jean Viard. Bonsoir, monsieur Viard.
Bonsoir.
Et c'est vraiment au sociologue qu'on a envie de s'adresser ce soir, l'observateur des comportements, y compris que vous êtes. Est-ce que ça veut dire, comment vous lisez ça? Est-ce que ça veut dire que les gens ne se sont pas encore emparés de la nécessité d'un comportement collectif, au fond? Est-ce que c'est comme ça que vous le diriez, vous aussi?
C'est un chemin. Mm-hmm. Si vous voulez, dimanche, par exemple, les gens qui ne sont pas allés voter, une partie d'entre eux, c'est parce qu'ils avaient conscience du risque. Mm-hmm. Et une bonne partie de ceux qui ont été votés ont été extrêmement prudents, ils ont respecté les règles. Donc au fond, ça leur a servi de grandes répétitions. Mais c'est pas tout le monde. Et puis en plus, c'est bien la question de la gestion de la peur, la gestion de la panique, le manquer. Mmh. Et en ce moment, les gens ont plus peur de manquer que d'attraper la maladie. Et au fond, une partie des gens, faut pas dire les gens, mais enfin, une partie des gens, ce que dit ce monsieur est effectivement totalement consternant. Mais si vous laissez bien là, où la question qui nous est posée, politique, de l'intervention du président ce soir, il suffit pas d'édicter des règles. Mm-hmm. Il faut que les gens acceptent ces règles, les comprennent, parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'écoute. Il y a plein de gens qui écoutent pas la radio, ils écoutent jamais les infos, le président de la République, ils vont pas l'écouter. Faut tout jamais oublier, il y a plein de gens qui ne se renseignent que sur des réseaux fermés Facebook. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une société où tout le monde... Alors, il y a des... Donc, ça veut dire qu'il faut construire une confiance pour que le peuple, effectivement, écoute et accepte et monte des règles plus dures. C'est évident qu'il faut faire des règles plus dures parce qu'on n'y arrivera pas.
Alors là,
mais si vous voulez, ça ne sert à rien de vouloir décider tout en deux jours et que personne n'écoute.
Alors,
donc, on est dans ce chemin.
C'était ça le sens de ma question. Il faut que ce soit plus dur pour que les gens écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce
et
que
non,
ça veut
bah,
dire...
Écoute, mais si ça coûtera 200 euros...
Alors
si
voilà, il faut être coercitif, vous dites, Jean Viard.
Je veux dire, excusez-moi, mais il y en a plein qui le font pas.
Ouais, il faut être coercitif, donc ça veut dire que...
Ah, il faut être coercitif. Attendez, on est en danger de mort pour des milliers de gens. Donc, si vous voulez, c'est une question extrêmement tragique. Tous les gens qui ont des très vieilles personnes, ils sont très inquiets. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des sujets qui nécessitent de la régulation autoritaire. Je veux dire, le problème, si vous voulez, ce qui est terrible dans ce qui se passe, c'est qu'à la limite, les Chinois sont meilleurs que nous. C'est-à-dire qu'une dictature totalitaire avec un mec par quartier qui est à moitié flic et tout, mais dans des cas comme ça, c'est efficace. Et au fond, une question qui nous est posée, qui est quand même profondément importante, c'est est-ce que le modèle démocratique saura régler cette question de la même manière? Et ça serait bien qu'on gagne quand même.
Et alors ce sera vraiment parmi les questions qu'on se posera probablement au sortir de cette crise-là. On va visiter plusieurs pays de ce point de vue-là, Jean-Viard, et je pense que ça vous intéressera. Juste avant, je voudrais donner la parole à Jean-Marc Four, qui est là, le seul autour de la table. Jean-Marc, qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Oui, c'est exactement ce que dit Jean-Viard, c'est-à-dire qu'on a là le contrepoint de certaines sociétés asiatiques, évidemment la Chine que citait Jean-Viard, mais aussi la Corée du Sud, où on ne va pas entrer dans les clichés, cliché, mais c'est vrai que de notre côté, on est sur des sociétés qui sont de liberté, d'individualisme, de consumérisme. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de consumérisme aussi. Mais disons qu'il y a une discipline sociale intégrée qui est plus forte, d'une part. Et d'autre part, il y a quand même un autoritarisme des pouvoirs publics qui est d'une toute autre nature. En Chine, évidemment, mais aussi dans un autre style au Japon et en Corée du Sud.
Parce que on va y aller au Japon dans un instant. Juste avant, j'ai une autre question pour vous, Jean-Vierre, parce qu'il y a deux sortes d'attitudes qu'on a vues ces derniers jours, et notamment dans ce que nous décrit notre ami Jean-Bernard dans son supermarché. Il y a à la fois ceux qui effectivement n'ont pas compris peut-être l'essence du danger, et ceux qui se trompent, qui sont trompent la mort en fait, en imaginant qu'on peut agir autour de ce virus comme nous le faisions tous après le 13 novembre en allant manger dehors. Donc on est dans deux formes de refus, ou peut-être de déni, qui sont extrêmement différents.
Mais c'est-à-dire que si vous voulez, l'idée qu'il n'y ait pas de médicament pour une maladie nous est totalement étrangère. Quoi que vous ayez, vous allez chez le médecin, vous allez à l'hôpital et les mecs vous soignent, ils sortent des tas de pilules, ils ont l'air de savoir ce qu'il faut faire. Et donc si vous voulez, et là on est face à quelque chose qu'on ne sait pas soigner. Et au moment de la grippe espagnole il y a un siècle, je pense que c'était courant. Il y avait peu de médecins, il y avait peu de médicaments, donc au fond c'était une maladie aléatoire et tragique parmi d'autres. Là, d'un coup, on nous dit, on ne sait pas soigner. La plupart du gens, bon, qu'est-ce qu'ils racontent, il vaut mieux trouver une solution. Donc si vous voulez, convaincre les gens que nous ne savons pas, dans une société aussi scientifique, aussi technique, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et donc si vous voulez, là il y a un énorme truc, c'est pour ça qu'il faudra de la coercition davantage, et en même temps, on est en train de faire, la société apprend, si vous voulez, c'est-à-dire que dans 6 mois, dans 1 an, ce sera plus la même société. Parce qu'elle sera passée par un sas mondial, gigantesque, qui va reposer les questions politiques, reposer la question des couples. On va se trouver en retraite de couple ou de famille pendant 1 mois ou 2. Ça nous est jamais arrivé. Donc si, ça peut aussi amener à des divorces, hein, mais ça ne sera pas la solution majoritaire. Mais ce que je veux dire, c'est que on va marquer notre vie, et nous, la génération de ce virus, notre vie va changer jusqu'à notre mort.
Je vous le glisse dans l'oreille au passage, Jean-Vierre, évidemment à ceux qui nous écoutent, mais le conseil scientifique, au moment où on se parle, recommande un confinement à l'italienne. C'est ce que dit une dépêche AFP aujourd'hui. On verra bien ce que ça veut dire tout à l'heure dans la bouche du président de la République. Je voudrais justement, puisque vous y avez fait allusion aux sociétés asiatiques, qu'on aille rejoindre Karine Nishimura. Bonsoir Karine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Karine, le Japon est un pays touché, on se souvient très bien du Diamond Princess qui a été l'un des premiers épisodes marquants de ce début d'épidémie, mais chez vous, la progression de la maladie est lente. Est-ce qu'on le met justement, en partie peut-être, sur le compte de cette discipline toute japonaise qui fait que quand on dit ne bougez pas et lavez-vous les mains, les gens ne bougent pas et se lavent les mains?
Alors effectivement, c'est un élément qui compte, hein, mais les gestes barrières qu'on préconise en France, en fait, ce sont des gestes naturels pour les Japonais. Il n'y a pas vraiment de changement là-dessus. Porter un masque, c'est très fréquent, très très fréquent en hiver au Japon, au printemps aussi, contre les pollens. Se laver les mains régulièrement, on apprend ça à la crèche dès l'âge d'un an. Toutes les heures, on va se laver les mains. On ne se serre pas la main, on ne s'embrasse pas. Les Japonais se parlent très peu en face à face. Donc tout ça, tous ces gestes barrières, en fait, ce sont les gestes quotidiens au Japon. Et puis en plus, vous l'avez dit, le fiasco du Diamond Princess, eh ben, il a échaudé tout le monde. Donc on a compris, quand on a vu que 20% des gens du Diamond Princess était contaminé, que si ça arrivait sur Terre, eh bien, la même chose pouvait se produire. Donc, on s'est protégé dès le départ au Japon. Et puis, il y a du civisme dans la société japonaise, c'est vrai.
Je reviens, Karine, avec vous, juste une seconde, sur ce que disait Jean-Vierre à l'instant, sur la crédibilité de la parole et de l'autorité, ce que nous plaçons derrière la parole de l'autorité. Est-ce que, chez vous, lorsque les autorités parlent, on les croit, ou pas du tout, pas forcément, c'est pas du tout de là que vient l'idée que les choses se passent, on va dire, relativement mieux dans un pays comme le vôtre?
Pas nécessairement, hein. Il y a des doutes sur ce que disent les autorités, il y a des doutes sur le nombre de cas, il y a probablement des cas cachés puisque les campagnes de tests ne sont pas massives, donc il y a une partie de la population qui doute, mais la trouille compte plus, c'est-à-dire la peur d'être soi-même contaminé, la peur aussi de contaminer les autres. Dans la société japonaise, on apprend aux enfants à ne pas faire mewaku aux autres. Mewaku, c'est embêter les autres, les gêner, et gêner les autres, c'est les contaminer. Par exemple, donc par rapport à la grippe, un rhume, on met un masque au Japon systématiquement dès qu'on est enrhumé pour protéger les autres. Donc voilà, c'est vraiment une notion non pas d'individualisme ici, mais de vie en collectivité qui prime.
Merci beaucoup pour ces précisions, Karine. Merci de nous faire partager ce que vous vivez là-bas au Japon. Je voudrais qu'on écoute Charlotte. Bonsoir Charlotte.
Oui, bonsoir.
Ah, allez-y, on vous écoute.
Eh bien, moi j'ai juste une remarque.
Allez-y.
C'est que je trouve que le mot confinement, c'est un mot un peu passif et puis c'est une punition. Et donc, moi je suis une grand-mère et donc je préfère dire que je suis volontaire pour rester à la maison.
Ça s'appelle une périphrase, mais pourquoi pas ?
Que c'est plus joyeux, si on peut dire.
Merci beaucoup pour cette remarque, Charlotte. Après tout, pourquoi pas un confinement joyeux qui s'appellerait un... Comment vous dites déjà, Charlotte, pardon ?
On est volontaire pour rester à la maison.
C'est ça, volontaire pour rester à la maison. Jean Viard, est-ce que... elle a raison, Charlotte. Est-ce qu'il y a aussi juste une histoire de vocabulaire, en fait, de manière
disons,
de...
Il faut que ça soit un projet,
ouais.
Si vous voulez. C'est pas un emprisonnement, c'est un projet altruiste, un projet de protection. C'est vrai que moi, je préfère parler de retraite en pensant, si vous voulez, non pas à la retraite âgée, mais effectivement au fait de se retirer, de retirement, si vous voulez. Parce qu'il faut se dire, je vais vivre de un mois ou deux, il faut que je prenne des habitudes. Peut-être que tous les matins, à 11h, j'aille acheter le pain. Peut-être que je voyais, c'est-à-dire que je téléphone à mes parents, si j'en ai, ou à mes enfants, tous les jours. C'est-à-dire, il faut qu'on invente des rituels, on a besoin de rituels. On a besoin de remplacer les liens physiques, mais peut-être les plaisanteries, comme on a dans un commerce, ou le fait de tenir la porte quand on passe, c'est des liens. On va pas les avoir, on va les remplacer par autre chose, mais on peut pas rester assis en pyjama toute la journée, quoi.
Et c'est aussi ce qu'on disait.
Sinon, effectivement, tout se déstructure.
Et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure en première heure, Jean-Vierre. On est dans une situation évidemment très inédite où la pondération dans son sens stricto sensu, c'est-à-dire l'équilibre des forces contraintes, n'a jamais été aussi importante. Le risque sanitaire d'un côté, mais le risque économique de l'autre, le risque d'isolement contre le risque sanitaire, ça semble extrêmement compliqué au fond de jouer. Volontairement, avec cette pondération-là.
Mais on change de monde dans nos vies privées, dans nos comportements hygiéniques, parce que le Japon, ce que disait votre correspondant, moi je suis allé au Japon, c'est tellement fascinant quoi, de voir que dans un taxi, par exemple, le chauffeur a des boutons pour ouvrir les portes, parce que vous n'avez pas le droit de toucher la porte, pour justement ne pas poser vos microbes sur la poignée. Donc si vous voulez, c'est une période de rupture culturelle, politique, économique. On ne sait pas comment on va en sortir. On en sortira, il y aura beaucoup de victimes, mais on en sortira. L'économie n'est pas détruite, c'est pas comme après une guerre, parce qu'on casse rien. On arrête les machines, mais on a toujours les machines. On a toujours les ponts, les routes, les trains, les avions, ce qui n'est pas le cas ni en 44, ni en 18. Donc faut voir relativiser aussi. Mais si vous voulez, c'est un immense apprentissage du 21e siècle. On change de siècle, quoi, pour dire les choses comme elles sont. On sort du siècle qui avait ouvert en 14, on entre dans un nouveau siècle où la mondialisation va être repensée, où sans doute on était très individualisés. Je pense qu'on va le rester parce que c'est une valeur géniale. Mais
j'allais dire, je vous trouve très optimiste.
Avec une réflexion sur les liens, etc.
J'allais dire, je vous trouve très optimiste, en fait, Jean Viard, sur un après qui sera forcément quelque chose de fondamentalement différent.
Mais si vous voulez, c'est comme les guerres, c'est à la fois des catastrophes horribles et c'est des lieux d'innovation extraordinaires. D'ailleurs, combien de médicaments, combien on a inventé justement à cause de la guerre. Les sociétés ne sont pas des mondes de bisounours, donc il y a effectivement des périodes de rupture. Et là, on rentre dans une énorme période de rupture à toute vitesse, on ne sait pas quoi faire. On voit bien les gens qui nous dirigent, ils gouvernent à la lanterne, mais comment faire autrement? Et donc, si vous voulez, je pense que c'est une période de rupture. Mais on en sortira plus ou moins bien. Vous savez, c'est les hommes qui écrivent l'histoire. Est-ce qu'on va être capable d'avoir une maîtrise et une pensée politique française, européenne, ou au niveau mondial, pour sortir des choses? Et est-ce qu'on va pas être tellement angoissé d'être enfermé qu'on va se déprimer? Je ne sais pas, mais l'enjeu, si vous voulez, compris quand j'interviens moi, c'est d'essayer d'éclairer le mouvement dans sa force. Après, chacun s'en saisit ou pas.
Alors justement, il y a aussi des choses qui sont étonnantes. Je voudrais très rapidement qu'on aille rejoindre Omar Waman, qui est en Italie avec Gilles Gallinaro. Bonsoir Omar.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes à Cotonio, Omar, qui est l'un des gros foyers de l'épidémie italienne. C'est là qu'est partie l'épidémie. Moi, je voudrais surtout que vous me parliez justement de ces Italiens dont on dit trop facilement qu'ils ne sont pas disciplinés. Là, ils le sont vraiment. Et ils le sont aussi vis-à-vis de vous, d'ailleurs, de leur protection et votre protection en même temps lorsque vous travaillez.
Oui, les Italiens que l'on a croisés, que l'on croise depuis samedi, eh bien, ne parlent pas de coercition. Hein. Ils ne parlent pas de prison. Ils disent, en fait, que ces mesures qui ont été prises, eh bien, sont des mesures pour protéger la population. Ce sont des mesures qui ne sont pas contre la population, mais pour.
Ce qu'ils ont compris et qu'on n'a pas compris nous encore, en fait, Omar.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez étonnant quand on se promène à Bergame ou à Codogno, dans le nord de l'Italie. En fait, la vie a l'air assez normale, sauf que les commerces sont fermés. Les pharmacies sont ouvertes, évidemment. Les pharmacies, quelques supérettes, quelques stations-service. Mais ce qui est frappant, ce sont ces personnes qui circulent avec des masques, des gants, qui se parlent à distance. On a saisi avec Gilles Gallinaro une séquence assez extraordinaire à Codogno où on avait une conversation en face de nous, deux personnes qui se parlaient, elles étaient à 1,5 mètre, 2 mètres, et elles avaient une conversation, elles discutaient, elles ne se sont pas approchées. Nous sommes quand même dans un pays latin, un pays chaleureux. Eh bien, les Italiens ont compris. Voilà, ils ne se touchent plus. Ils ont des gants, des masques, ils se parlent. Et en fait, ils passent peu de temps dans la rue. Ils sont là pour ne serait-ce que faire quelques courses, et puis ils remontent chez eux. Quand ils croisent un ami ou quelqu'un de leur famille, eh bien, ils ont une conversation cordiale, mais la conversation cordiale se passe toujours à distance.
Et peut-être qu'on en prendra de la graine, allez savoir. Merci beaucoup Omar, merci à Gilles Gallinaro qui est avec vous. Soyez prudents tous les deux. Je voudrais qu'on rejoigne Julien qui est à Blois. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors, j'avais un petit témoignage. Je suis, moi, diabétique type 1. Donc je me suis confiné déjà depuis quelques jours en tant que personne un petit peu faible, si on peut le dire comme ça. Ma femme est professeure des écoles, professeure en lycée, donc travaille à la maison déjà depuis quelques temps. Et j'ai en fait plusieurs angoisses qui vont se mettre et se cumuler les unes après les autres. Donc j'imagine que je suis pas le seul, qui sont les angoisses de qu'est-ce qu'on va faire pendant trois semaines à la maison sans pouvoir réellement sortir, moi personnellement et ma femme assez peu en fin de compte. Les angoisses qui vont être là, j'entendais votre auditeur parler de problèmes dans les supermarchés, d'approvisionnement en termes de médicaments. Moi, je pense pour l'insuline. Et je me suis demandé, est-ce que on a des témoignages, est-ce qu'il y a des exemples de confinement aussi longs sur des périodes aussi longue et sur des aussi grandes populations.
Merci beaucoup pour votre question, Julien. Bonsoir, Jacques Battistoni.
Bonsoir.
Vous êtes médecin à Caen, vous êtes président du syndicat MG France. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, un historique à nous donner, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est vous, le médecin de ville, est-ce qu'à un moment, vous savez que vous aurez aussi à gérer ce que nous décrit Julien ? C'est-à-dire, il y a les cas, les gens qui sont inquiets, sont-ils infectés, ne le sont-ils pas ? Et surtout, sur la longueur, une forme de détresse psychologique de la part de vos patients. Est-ce que vous anticipez là-dessus ? Vous savez que ça peut vous tomber dessus ?
On voit déjà, j'ai l'impression, parce que aujourd'hui j'ai vu peu de gens malades. J'ai vu en pratique une seule personne dont le cas pouvait faire évoquer une infection à coronavirus. Par contre, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient anxieuses, voire très anxieuses, et qui se demandaient comment elles allaient pouvoir vivre ce moment particulier. Pour certaines d'entre elles, continuer à travailler auprès de personnes âgées en se disant « mais je suis trop anxieuse, toutes ces précautions, c'est difficile pour moi ». Et l'impression d'un poids, d'un côté anxiogène aussi, des annonces qui étaient faites. Et elles se demandaient si elles allaient être capables de vivre ça et de supporter ça.
Pour vous, le médecin, les annonces qui sont faites, est-ce qu'au fond, elles sont... alors, je ne sais pas comment se répartissent finalement vos patients. Est-ce que vous avez le sentiment que, pour certains, elles sont finalement... plus anxiogènes qu'informatives. Est-ce que ils ont du mal à démêler ce qui est très grave et ce qui ne l'est pas, et c'est votre travail du coup de le faire? Comment reçoivent-ils les informations, ceux que vous voyez?
De façon assez variable. Je crois que les gens ont du mal à démêler aussi ce qui est de l'ordre de la prévention individuelle et de la prévention collective. Et j'essaie de passer un peu de temps à leur expliquer que ce qui est fondamental, c'est que le virus arrête de circuler, qu'il arrête de se transmettre d'une personne à personne, et que donc il faut qu'ils se protègent eux-mêmes, mais aussi qu'ils protègent l'ensemble des autres en mettant un terme à cette circulation effrénée, de plus en plus rapide, du virus qui se multiplie par endroits. Je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre, mais c'est difficile de penser collectif alors qu'on est habitué à penser à soi-même d'abord.
Est-ce que c'est une question qui nous vient sur franceinter.fr de la part de Vincent et qui lui aussi nous explique qu'il a du mal à savoir quelle sera l'attitude à adopter si d'aventure il se sentait fébrile ou fiévreux ou autre chose. Et au fond, la question que j'ai envie de vous poser, Jacques Battistoni, est-ce que le parcours de soins semble plus simple aux gens désormais ou là encore, il faut redire non, on ne va pas à l'hôpital, oui, le médecin de ville, mais voici comment ça peut se produire. Ouais. Est-ce que ce parcours de soins est plus simple aux yeux des gens?
En tout cas, il faut vraiment le simplifier. La semaine dernière, on est allé voir le gouvernement. On leur a dit qu'il va falloir gagner aussi la bataille de la communication. Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit aux gens, dès que vous êtes malade, vous appelez le 15 et éventuellement, vous allez aller à l'hôpital pour être en confinement. Aujourd'hui, les choses ont fondamentalement changé. Aujourd'hui, si je suis malade, j'appelle mon médecin traitant. Mmh. Et si mon médecin traitant n'est pas là, et votre médecin traitant va être là, parce que tous les témoignages que je vois montrent que tout le monde est sur le pont aujourd'hui pour prendre en charge les malades. Et si jamais c'était son jour de congé, eh bien, ça sera son voisin, son collègue qui prendra en charge les patients. Donc aujourd'hui, le message fondamentalement, c'est ça. Allez voir votre médecin traitant, il vous connaît, il sait vous prendre en charge. Et justement, il connaît vos risques éventuels. Le patient tout à l'heure qui a un diabète de type 1, il a un médecin traitant et son médecin traitant, il saura le conseiller, il saura conseiller sa famille.
Est-ce que des informations vous manquent à vous, les généralistes, aujourd'hui? Est-ce que parfois vous êtes confrontés à des questions auxquelles vous ne savez pas répondre?
Alors, dans notre syndicat, on a mis en jeu depuis quelques jours une foire aux questions. On essaye de recueillir l'ensemble des questions que se posent nos collègues. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et elles touchent beaucoup. Actuellement, la question des arrêts de travail, qui fait l'arrêt de travail et qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, on est habitué à faire un arrêt de travail en maladie pour quelqu'un qui est réellement malade. Là, on fait des arrêts de travail de précaution. Et des personnes qui sont fragiles nous disent « moi, je ne vais pas pouvoir aller travailler ». Donc, aujourd'hui, nous sommes amenés à conseiller à ces gens-là, effectivement, de s'arrêter parce que ça peut être difficile. Le confinement risque de changer la donne, évidemment.
Est-ce que vous craignez, vous, vraiment, depuis votre point de vue de médecin, est-ce que vous craignez un confinement plus important ou est-ce que vous avez le sentiment que, au contraire, ça permettra au moins de clarifier un certain nombre de choses et peut-être même de clarifier une dangerosité que certains n'ont pas encore touché du doigt?
Ouais, c'est ça. La difficulté, c'est que là, on est en train de changer très vite de discours depuis la fin de la semaine dernière. Ouais. Il faut que les gens comprennent que le confinement, c'est le seul moyen réellement efficace que nous avons pour freiner cette épidémie. Et que freiner l'épidémie, c'est vital pour éviter de submerger nos services de soins intensifs. Mmh. Ça, c'est fondamental. Il faut impérativement qu'on arrive à avoir moins de cas nouveaux tous les jours. Et le confinement, le fait que le virus ne circule plus, est le moyen pour lutter contre l'épidémie.
Est-ce que vous sentez une certaine attente au fond parfois? C'était le sens de notre ami qui est dans son supermarché à Calais qui disait c'est terrible, il faudrait peut-être confiner mieux et plus puisque de toute façon ce sera le seul moyen pour que les gens comprennent et sachent vraiment quoi faire. Qu'est-ce que vous sentez plus une forme d'angoisse par rapport à ce genre de nouvelles ou encore une fois, au moins comme ça, on a l'impression que les choses sont à peu près claires. Et regardez, ça se passe comme en Italie. Donc on a même des exemples chez nos voisins qui nous permettent peut-être d'appréhender ce qui va se passer, en fait.
Oui, je crois que quelque part, les gens attendent un peu ça. Les gens me disent tous, regardez autour de moi, les gens font des achats de précaution. Ils sont nombreux, ils sont tous tassés dans le magasin, c'est pas possible. Effectivement, à un moment donné, il faut donner un signal psychologique, très probablement, pour leur dire, il faut que quelque chose change. J'ai vu, comme vous avez vu, les photos des gens dans les parcs hier, les gens sont prêts les uns des autres, ils se promènent en famille. La prise de conscience de la gravité et de la nécessité d'agir et d'agir vite n'est pas encore dans toutes les têtes et dans tous les esprits. Donc, il faut quelque part certainement donner un signal et je pense que le signal nous sera donné tout à l'heure.
Eh bien peut-être et on verra ça ensemble Monsieur Battistoni. Jean-Marc Fourin pour une petite intervention et on revient au standard.
Très brièvement, on a les chiffres de l'Allemagne là d'aujourd'hui qui viennent de tomber, donc plus de 1000 nouveaux cas en 24 heures en Allemagne aujourd'hui. Il est probable que la France sera dans le même registre ce soir par rapport à hier, c'est-à-dire on devrait avoir de l'ordre de 1000 nouveaux cas, c'est très probable.
Avec une sorte de langage de vérité très cash de la part d'Angela Merkel, tout de suite en fait à la Angela Merkel à l'allemande, qu'elle est la seule au fond à avoir osé dire de cette manière. C'était une phrase, Jean-Marc, souvenez-vous, qui disait au moins 70% des Allemands seront touchés.
Comme voilà, ça, exactement, elle l'a dit presque tout de suite, oui, enfin, là, il y a quelques jours déjà, oui.
Allez, on va faire un tout petit virage, mais encore que. Bonsoir Nancy.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors moi, j'avais une réflexion au niveau économique.
Oui.
Parce que là, il y a des grandes différences entre ceux qui vont pas pouvoir travailler du tout et qui vont donc avoir pas de revenus et des gens qui, moi par exemple, je cultive des légumes, donc je vais travailler à peu près normalement. En fait, les gens, ils ont quand même besoin de manger. Donc tout ce qui est vital va continuer. Et par contre, tout ce qui est touristique, tout ce qui est culturel, il y a plein de gens qui vont avoir leur activité complètement à l'arrêt. Et donc, je m'interrogeais sur la possibilité d'avoir, sur cette période qui va durer, je pense, 2-3 mois, quelque chose de cet ordre-là, un fonctionnement complètement différent où on annule toutes les dépenses de loyer, de remboursement d'emprunt, et on fonctionne au maximum sur un principe de gratuité.
Et je ne sais pas si c'est possible, ni si ce sera mis en place, mais merci beaucoup pour votre question. Nancy, bonsoir, Patrick Artus.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, chef économiste chez Natixis. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment pour soulager les entreprises, donc accepter les paiements de charges avec retard, un paiement de la part d'État dans les situations de chômage partiel. On n'est pas encore passé au stade du dessus, si je puis dire, et que suggère Nancy, qui est de dire qu'il faut que pour chacun, puisqu'il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y ait plus de dépenses non plus. Est-ce que dans un cas aussi inédit que celui que nous vivons aujourd'hui, il est envisageable pour une économie d'arrêter ses sorties puisqu'il n'y a plus d'entrée. Ou est-ce que ça vous paraît intenable en fait ?
Donc ce qui est suggéré aggraverait les choses, parce que le vrai sujet pour le gouvernement, là je parle plus du tout du problème sanitaire, ouais, c'est de faire en sorte que cette crise ne compromette pas durablement notre bien-être à tous. Ça veut dire qu'il ne faut pas que cette crise laisse des traces indélébiles où notre société, notre économie serait durablement affaiblie. Et donc, il faut éviter, les faillites d'entreprise. Un de vos interlocuteurs tout à l'heure disait c'est pas comme les guerres, on détruit pas.
Alors, j'allais exactement vous poser cette question. Jean-Pierre a dit on casse
faillite,
pas l'entreprise.
En général, son capital est perdu. Et quand une entreprise fait faillite, les personnes qui travaillaient pour l'entreprise perdent ce qu'on appelle leur capital humain, leur savoir-faire. Donc toute la politique économique du gouvernement et des banques centrales doit viser, mais je crois que c'est le cas d'ailleurs, tout le monde a compris, à empêcher que les entreprises fassent faillite. Alors ça passe par une immense liste de mesures qui sont déjà largement en place. Les entreprises paieront plus tard leurs impôts, les salariés peuvent être mis en chômage partiel. Vous avez vu qu'Air France annonce que plus de 80% de ses salariés seront en chômage partiel. Mais pour répondre à votre interlocuteur tout à l'heure, à votre auditrice, ils seront très largement payés par l'État pendant que Air France ne les emploie plus. Donc ils ne vont pas perdre leur revenu. Les banques centrales mettent des liquidités, baissent les taux d'intérêt. En France, la BPI, qui est une banque publique, pourra garantir les crédits pour que les entreprises puissent continuer à s'endetter, avoir des lignes de trésorerie. Voilà. Et donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il y ait le moins de faillite possible. Parce que c'est ça qui permettra au troisième trimestre de redécoller. Sinon, on aura perdu des emplois, on aura perdu du capital, on aura perdu des savoir-faire et on aura une perte de croissance permanente. Voilà. Et donc, je pense que tout le monde l'a compris. Et j'ai l'impression que l'organisation en France est assez bien orientée dans cette direction, puisque toutes les mesures que j'énumérais ont été prises et vont dans le bon sens. Le gouvernement, évidemment, va faire exploser le déficit public. Mais quelle importance, d'abord vu les circonstances, puis on a une dette publique qui fait 100% du PIB. Si après la crise c'est 104% du PIB, ça fait pas une immense différence, honnêtement.
Et nos voisins vont s'affranchir aussi évidemment de ces règles les uns après les autres.
Bien sûr.
Ça c'est une évidence.
Y compris les Allemands, ce qui est d'ailleurs important.
Bien sûr.
Et puis bien sûr, si j'ai encore une...
Je vous en prie, allez-y, monsieur Artus.
Ce qui a été dit par ce soir est très important. Je crois que Les fonctionnements des sociétés seront peut-être différents, mais je crois que les économies sont très différentes. Et on a compris, on est en train de comprendre beaucoup de choses. Je dis des banalités, mais je crois que c'est important de les redire. On ne peut pas dépendre d'un seul lieu de production pour les biens. Donc je crois que déjà quelqu'un sur votre antenne dans les jours passés avait dit « c'est pas possible que les principes actifs des médicaments soient faits en Chine ou en Inde et pas en Europe ».
Et ça n'est pas une économie interdépendante, mais une économie dépendante.
On va produire tout à plusieurs endroits. On va travailler sur une base plus régionale. On va appeler ça la déglobalisation. Deuxièmement, on se rend compte qu'il y a des services publics qu'il faut pas affaiblir.
Et ce qui va être très intéressant, c'est de regarder les États-Unis. Aux États-Unis, il y a 30 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture maladie et 90 millions d'Américains qui ont une mauvaise couverture maladie. Ben, vous allez voir que tout d'un coup, les Américains vont trouver que c'est inacceptable. Donc on va changer la perception de ce que doit faire l'État. Hein. Et puis l'État va soutenir des entreprises. Et l'État va intervenir pour être sûr que des choses stratégiques soient faites en Europe. Donc moi, je suis assez optimiste. Je pense que...
J'entends, vous êtes sacrément optimiste même sur...
La fin du capitalisme néolibéral avec cette crise. Et je crois que c'est vrai qu'il va se passer beaucoup de choses.
Mais j'entends que vous êtes extrêmement optimiste, Patrick Artus, sur l'après. En tout cas, sur... bien sûr, j'ai bien compris qu'on était dans l'après, oui. Sur l'après et sur l'idée d'un changement de paradigme, sommes-nous réellement capables de ça? Après la grande crise financière en 2008, on n'a pas changé beaucoup de paradigme et il y a eu d'autres moments comme cela. Est-ce que c'est parce que c'est suffisamment inédit et que ça touche le monde entier que il se passera quelque chose de différent, selon vous, avec ce coronavirus?
D'abord, il s'est quand même passé des choses après la crise de 2008. On les minimise parfois. Enfin, honnêtement, on a une régulation financière qui est incroyablement plus sévère. Alors, c'est, évidemment, c'est un peu technique, c'est surtout dans le domaine de la finance. Mais quand même, on a complètement changé le paradigme financier. Une banque, aujourd'hui, est totalement contrôlée. Enfin, je veux dire, donc on a complètement changé de vue. Alors, bien sûr, c'est moins visible, c'est plus concentré dans le secteur d'activité, mais il s'est passé pas mal de choses. Non, là, oui, je pense que ça touche la vie des gens, quoi. Donc c'est perçu comme étant tellement grave. Et on voit tellement clairement ce qu'il faut pas faire, quoi. Je veux dire, à nouveau... aux États-Unis, j'espère, ça peut changer l'issue de l'élection présidentielle, hein, parce qu'un des points communs à Biden et Sanders, c'est quand même bien leur proposition de couverture universelle de santé pour tous les Américains, qui est quand même quelque chose qui va sûrement être extrêmement populaire.
On verra quelles seront les conséquences.
Donc, il y aura des changements de paradigme dans beaucoup de pays, je pense.
Y compris par rapport à ce que dit en ce moment Donald Trump, mais allez savoir. Jean-Marc, rapidement, parce qu'on a le temps de prendre encore un tout petit appel.
Oui, pour prolonger ce que vient de dire Patrick Artus et aussi notre auditrice, dans le communiqué du G7 de cet après-midi, puisqu'ils sont tous consultés par vidéoconférence cet après-midi, il y a un aspect de la pièce qui est effectivement, on va tout faire pour défendre, restaurer la croissance, on va poser même les fondements d'une croissance plus forte après, c'est ça qui est écrit dans le communiqué du G7, donc on voit bien cette facette de la pièce. Il n'y a pas en revanche l'autre facette de la pièce, hein. Il n'y a pas on va changer de modèle, etc. Ça, ça y est pas.
Et bien justement, on va poser la question à Sarah, parce qu'elle sait ce qu'elle voudrait et peut-être ce qu'elle sent venir. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y Sarah.
Oui, c'est par rapport, moi, là où je suis et dans beaucoup d'endroits aussi, je vois que...
Vous êtes en Ariège, Sarah.
Exact, en Ariège, voilà. Dans les montagnes, donc ça va. Très bien, même. En fait, dans les endroits où déjà les gens ont fait la démarche d'avoir des modes de vie où on est plus autonome, où on est en circuit court, on est aussi habitué aux solidarités, eh bien, cette situation-là de confinement, en effet de retraite, on pourrait dire, elle est vécue avec beaucoup plus de sérénité. Mmh. Et en fait, cette angoisse que je vois de la plupart des gens par rapport à l'idée, on s'entend, l'idée c'est quoi? C'est de rester chez soi. Donc je ne parle pas de toutes les difficultés de se fournir des médicaments et tout ça, ça c'est autre chose. Mais il y a quand même une difficulté à respecter cette idée de rester chez soi et je pense que c'est vraiment qu'on va être en effet à un basculement et à une interrogation sur nos sociétés parce que ça veut dire qu'on en est arrivé au point où en tant qu'individu, on n'imagine pas ce qu'on va bien pouvoir faire d'une journée qui n'est pas tournée vers la production économique. Là, d'un coup, les parents vont avoir leurs enfants, vont passer leur journée entière avec leurs enfants, vont faire quasiment de l'école à la maison. Donc, les rapports vont changer, le rapport à soi et le rapport au temps et on va peut-être pouvoir tirer quelque chose de ça, en fait.
Merci beaucoup pour votre remarque, Sarah. Puisqu'on a commencé tout à l'heure avec Jean-Vierre, j'aimerais que vous puissiez réagir à ce que dit Sarah, parce que ça va un peu dans le sens, au fond, de ce que vous disiez, où on va apprendre des choses de nous au fil de cette crise. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
Oui, mais ce que disait Patrick Artus d'une autre manière, je veux dire...
Absolument.
Et ce qui est vrai, ce qui est différent par rapport à 2008, c'est que chacun de nous va agir différemment pendant quelques semaines. Donc ça va nous toucher dans ce qu'on a de plus intime. On pourrait dire aussi, si on veut être optimiste, qu'il va y avoir une vague nataliste dans 9 mois. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qui joue. Et le problème, c'est qu'il y a une tragédie. Et d'abord, il faut mobiliser les gens parce qu'ils sont pas assez sensibles. Il y en a plein qui font pas attention, qui font des conneries, qui se comportent comme des idiots. Donc ça, il faut le répéter, le marteler et le sanctionner. Mais en même temps, on vit une aventure extraordinaire qui effectivement arrive à un moment où le monde était en train de s'interroger sur la mondialisation, sur les structures des nations, sur tout ça. peut-être qu'il y a d'autres façons de vivre ensemble que effectivement le populisme ou le nationalisme, et ça peut sortir de ça.
Merci beaucoup. On écoutera ensemble, Jean-Vierre, le président de la République, Patrice Artus. Il nous reste une petite minute à passer ensemble. Indépendamment du fait qu'on est dans quelque chose du domaine de la santé, que c'est évidemment très grave et qu'il y a évidemment des personnes qui décèdent, mais est-ce que vous diriez, vous aussi, qu'on vit, au fond, un moment, je reprends les mots de Jean-Vierre, un moment très particulier, un moment extraordinaire au sens étymologique du terme, qui peut, à la fin, se retourner dans notre sens.
Oui, on n'a pas beaucoup parlé d'Europe ce soir. Jusqu'à présent, l'Europe était quand même très absente, très peu de coordination. Qu'est-ce qu'on ferait si on était vraiment un pays ? On dirait qu'il y a des pays plus fragiles en Europe, hein, la Grèce, l'Italie. Ces pays, on devrait les aider, donc on devrait peut-être financer ensemble les dépenses publiques qu'il faut mettre en place dans tous ces pays, dans la santé, dans le sauvetage des entreprises. On fait rien de tout ça, c'est les budgets de chaque pays qui travaillent. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un sursaut qui fera qu'on fera un peu d'Europe, quoi, et qu'on ne sera pas sur une logique totalement nationale dans la réaction à la crise.
Pardon de vous interrompre, monsieur Artus, pardon de vous interrompre.
C'est très compliqué pour les pays qui commencent cette crise plus fragile que les autres. Et bien sûr, tout le monde a l'Italie.
S'il vous plaît, on va entendre le président de la République dans moins d'une minute, donc pardon de vous couper, c'est maintenant. Allez-y.